À Lille, l'association La Ch'tite Maison Solidaire s'engage dans la location responsable afin de financer une aide pour les plus démunis. Nous sommes allés à la rencontre de Christophe Thomas, cofondateur. Dans ce reportage, il nous raconte l'histoire du collectif, les solutions développées pour soutenir les personnes sans abri ou en situation de précarité et leur fonctionnement. Bonjour Christophe, tout d'abord, pouvez-vous nous raconter l'histoire de La Ch'tite Maison Solidaire ?
Bonjour Annaëlle, oui avec plaisir. L'histoire de La Ch'tite Maison Solidaire débute en 2017 sur les bidonvilles de Lille avec l'association du Père Arthur Ami des Pauvres, un prêtre assomptionniste de la rue de la Bassée à Lille qui apporte une aide alimentaire aux populations roms des bidonvilles de Lille. Et moi je me suis engagé à cette époque dans cette association et j'ai rencontré Tony Mijalovic qui était déjà actif depuis quelques mois dans cette association et puis on est devenus très amis, avec une particularité qu'on vient tous les deux d'un confort très très différent. Donc tous les deux, les cofondateurs de La Ch'tite Maison Solidaire, on témoigne du fait qu'on n'est pas tous avec le même niveau de confort, que certains ont de la chance comme moi d'avoir beaucoup de confort et d'autres sont enlisés dans un inconfort comme Tony. Et il se trouve qu'on a trouvé ce terrain de rencontre qui était l'investissement associatif. Donc on est tous les deux bénévoles et face finalement à un sujet de société qui est le bidonville, les gens qui dorment dans une vraie précarité. Et du coup, on fait face à ce problème de société et on a peu à peu en fait construit une solution à ce bidonville.
Et alors justement, c'est quoi cette solution ?
Alors on a deux pans dans l'association. Et le premier, c'est un peu notre outil et notre source de financement. C'est vraiment un très très beau, joli filon qu'on a trouvé, un petit miracle qui est apparu très vite, puisque Tony, qui ne pouvait pas travailler, ne pouvait donc pas payer de loyer et vivait avec sa famille dans un appartement en mode squat. Et un jour arrive ce qui devait arriver, il reçoit son préavis d'expulsion. Comme Tony, à cette époque, est vraiment l'homme clé de l'association, notre président vient me voir et me demande gentiment de l'héberger afin qu'il puisse être dans un minimum de confort et continuer à être actif pour l'association. C'est quand on n'a pas de confort et quand on est à la rue, on ne peut pas être dans son talent. Et me voilà dans la perspective d'accueillir une famille de 4 personnes à la maison et les contraintes font que je ne m'en sens pas capable et ma vie de famille ne le permettait pas. Même si j'avais l'espace, j'avais 2 chambres, une salle de bain, on pouvait partager la cuisine. Et c'est là où j'ai proposé à Arthur une autre solution qui était finalement d'utiliser ma maison et de la mettre sur Airbnb, de la louer à des touristes en particulier quand je n'ai pas ma fille, afin de financer finalement le loyer de Tony. Et là, on arrive avec notre outil et notre source de financement qu'on appelle Host for Good. On a travaillé ça avec un mécène, mais c'est très, très explicite. C'est de dire on accueille des touristes, non pas pour surconsommer la planète, mais bien pour partager.
Vous avez parlé de surconsommation. J'imagine que vous voulez faire référence à la notion de confort.
Quand on a du confort, on en crée toujours plus. Une minorité de la population possède beaucoup de confort et l'utilise pour avoir des revenus qui leur donnent toujours plus de confort. Inversement, d'autres sont dans l'inconfort et n'ont pas le revenu suffisant pour payer les loyers et ils sont enlisés dans un inconfort, parfois à se retrouver expulsés de leur logement. Et donc, voilà, on a mis cette notion de surconfort pour dire aux gens, est-ce que vraiment vous avez besoin de tout ce confort ? Aujourd'hui, si on était tous comme un Français moyen en termes de confort sur Terre, on aurait besoin de 3 planètes en fait. Donc on ne va pas dans le bon chemin. Et donc c'est vraiment pour mettre les gens face à cette réalité et les inviter à réduire leur consommation, à être plus sobre. Si on est plus sobre, on a besoin de moins de confort et on a plus de surconfort à partager. Et ce surconfort qu'on partage permet aux plus démunis d'atteindre le confort minimal pour vivre.
Donc comme vous le disiez, pour lutter contre le surconfort, vous avez créé un outil qui s'appelle Host for Good. Comment ça fonctionne ?
Donc, comme on aime bien dire, on exploite le minerai du surconfort. On invite tout le monde à faire un peu l'audit. On fait un gros recensement du surconfort. Qu'est-ce que c'est que du surconfort ? Ça peut être une chambre d'amis qu'on met sur Airbnb pour accueillir des touristes. Ça nous donne un revenu. Ce revenu, on en fait don à une association, l'association qui nous tient à cœur et qui lutte contre le mal logement. Et de ce biais, notre chambre, elle sert à aider les sans-abri sans forcément les accueillir chez nous. Un touriste, c'est beaucoup plus facile. On sait qu'il a une maison à lui et on sait quand il part. Donc, ça peut être une chambre d'amis. Ça peut être un terrain sur lequel on va mettre une tiny house. C'est le cas de Christophe et Olivier qui nous ont laissé un terrain de 700 mètres carrés à Ambleteuse, à 300 mètres de la mer. et qui nous permet d'accueillir des touristes pour financer le combat contre le mal logement. Mais ça peut être aussi une maison complète. C'est le cas de Nicole et ses trois fils qui nous mettent à disposition. C'est un projet qu'on a, un projet d'avoir cette maison pendant 20 ans et d'en faire un co-living pour des personnes qui ont les moyens afin de financer des tiny houses pour nos habitats partagés. Aujourd'hui, cette maison, elle est louée à TF1 pour la série HPI et l'argent versé par la production aux propriétaires est reversé pour des associations qui luttent contre le mal logement.
Parmi les différentes alternatives, vous avez cité la tiny house. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
On vient de faire le point sur le premier pan de notre association, cet outil qui est House for Good. Et nous, parmi les solutions au combat contre le mal logement, on propose une chose qu'on a du coup designée avec Tony sur le bidonville, c'est des habitats partagés en tiny house. Alors pourquoi la tiny house ? Bien finalement, il faut déjà que je précise qu'on s'appelle la Ch'tite Maison Solidaire depuis 2017. À cette époque, je ne connaissais pas la tiny house. Qu'est-ce que c'est que la tiny house ? C'est finalement une petite maison très écologique, faite de matériaux durables, qui est très petite. En général, elle fait... Nous, on a des tiny houses qui font 15 mètres carrés de plancher, enfin 20 avec la mezzanine, mais c'est en gros que 12 mètres carrés de surface utile. Simplement, tout est concentré et tout est optimisé. Au lieu de faire de nombreux pas pour aller de la chambre à la cuisine, et bien finalement, on monte une petite échelle et on arrive sur notre mezzanine. Quand on est attablé et qu'on a besoin de quelque chose dans le frigo, on n'a même pas besoin de se lever parce qu'il suffit de tendre le bras. Tout est optimisé. C'est un vrai symbole écologique parce que finalement, dans ce petit espace, vous devez faire un peu le tri dans vos affaires. Vous ne pouvez pas avoir une énorme garde-robe et donc vous vivez le minimalisme. Donc c'est en ça qu'elle est un symbole écologique. Nous, en plus, nos tiny houses, bien sûr, elles sont en toilette sèche, donc on consomme moins d'eau. Et elles sont reliées en phytoépuration. Donc on a un lien avec la nature qu'on a perdu dans nos maisons. On sait que quand on fait couler de l'eau par l'évier, ben, il faut faire attention parce que ça va passer par des plantes et passer par le vivant. Donc c'est des petites maisons vraiment écologiques.
Et alors pourquoi la tiny house ?
C'est vraiment pour nous la clé au problème du squat urbain. Le squat urbain a trois problèmes. Ce n'est pas moi qui les ai énumérés, je les ai juste observés. Et parfois même dans des rapports en anglais parce que c'est la même chose dans tous les pays. Finalement, il est d'abord illégal. Il est ensuite insalubre. Et ça, il y a de très belles associations qui œuvrent contre ces deux problèmes et qui trouvent la solution par le village d'insertion. Donc c'est une solution excellente. Mais malheureusement, elle ne répond pas au troisième problème qui est la non-mixité et le clivage qu'on a avec la société. La tiny house, elle va chercher des réponses à ces trois problèmes. Le premier, comme un mobilhome finalement, elle va le régler, l'illégalité, puisqu'on dit ben, on est mobile, on est sur roue, donc on peut exploiter une friche urbaine. La friche, vous en avez besoin pour un projet immobilier demain, mais il n'est pas commencé. Peut-être que ça va durer 10 ans. Donc laissez-la nous, quand vous en avez besoin, il ne nous faut pas longtemps pour déguerpir, on vous laisse le terrain. C'est pour ça qu'on se dit habitat partagé nomade, parce qu'on n'est pas la destination finale de la friche, et on sait qu'on va devoir bouger à un moment. C'est comme ça que la ville de Lille nous propose une friche. C'est comme ça que la ville de Lambersart étudie avec nous la possibilité d'installer des tiny houses. C'est comme ça que la SNCF nous a proposé 6 friches. Et donc, cette illégalité est très, très, très loin de nous. On est vraiment dans la légalité. On a des autorisations d'urbanistes, etc., etc. Le deuxième, l'insalubrité, bah, c'est vite vu. On est très bien dans une tiny house. On a fait passer la DPE, on a la meilleure note en isolation. On a en plus de l'isolation écologique, en particulier le métis, recyclage de nos vêtements par le relais. Et on a besoin de très peu de consommation d'énergie puisque c'est un petit espace bien fait. La mezzanine est en hauteur, donc on va chercher la chaleur là où elle est et on n'a pas besoin de mettre le chauffage à fond. Le troisième problème, la mixité, qu'on ne trouve pas sur un bidonville. Eh bien, on la règle parce qu'il y a plein de gens qui rêvent de vivre en tiny house sans être en galère. Certains jeunes l'ont compris et ne veulent pas participer à ce pillage et décident de faire l'effort eux-mêmes, de vivre la sobriété pour réduire la consommation qu'on peut avoir. Et là, c'est génial parce qu'on va se retrouver à même niveau de confort. C'est une inclusion totalement différente de ce qu'on peut connaître. On fait tous un pas vers l'autre. Les plus pauvres vont augmenter leur confort. Les autres vont le baisser, on se retrouve à un niveau de confort intermédiaire qui est celui de la tiny house. On est en belle égalité.
L'association s'étend dans d'autres villes en France ou la Ch'tite Maison Solidaire, c'est uniquement à Lille ?
Elle est sur Lille aujourd'hui parce qu'on a peu de moyens, mais n'importe qui peut s'approprier ce projet selon une charte hein, qui est importante pour nous. Et c'est comme ça qu'on a aussi des autres solidaires à Marseille, à Nantes, à Paris, mais de façon beaucoup plus modeste. C'est finalement des amis de notre réseau, parfois des ch'tis qui se sont expatriés et qui décident d'emporter dans leur valise le projet. Mais on voit à quel point c'est très très simple. Aujourd'hui, Airbnb est un outil très utilisé. Comme je le disais tout à l'heure, quand je citais l'abbé Pierre, il n'avait pas cet outil. Aujourd'hui, n'importe qui peut mettre sa chambre d'amis très facilement sur la plateforme et utiliser le revenu pour aider les associations locales. Donc, on n'a plus d'excuses et aujourd'hui, il faut vraiment régler ce problème de la misère.
Et donc ensuite, avec l'argent récupéré des loyers, vous mettez en place des jobs pour les personnes en situation de précarité, c'est ça ?
On va les utiliser pour financer des jobs qui font du bien à la planète. Donc c'est important de le dire, tout le monde paye le même loyer. C'est un loyer qui est très modéré, en particulier parce que les habitants ont le courage de la sobriété. Donc pour nous, une tiny house, c'est 350 euros par mois. Et tout le monde le paye, bien sûr à condition d'avoir des papiers en règle et de pouvoir travailler. Et on va financer avec ça, finalement, le job de celui qui ne pourrait pas payer son loyer. On va lui proposer un mi-temps au service du bien commun. C'est quoi notre job ? C'est des jobs qu'on dit écolo-rentables plutôt que économiquement rentables. Parce que finalement, moi qui ai fait 15 ans de banque, je me rends compte que nos jobs ne sont pas du tout rentables. Si Coca-Cola prenait le bon coût de l'eau, aujourd'hui on parle beaucoup de l'augmentation du coût de l'eau, on la sous-paye. Eh bien, si Coca-Cola payait le bon prix de l'eau, ben, ils ne verseraient pas autant de dividendes à leurs actionnaires. Et donc, remettons le bon prix des ressources, on l'a vu l'année dernière avec l'augmentation de l'électricité. Mettons en action des jobs qui font surtout du bien à la planète. Donc c'est quoi ? C'est l'agriculture urbaine. On a, en partenariat avec l'Île Sud Insertion, accompagné le financement d'un agriculteur urbain pendant un an déjà. Après, on a d'autres partenaires avec qui on coopère, comme Ecozone, qui fait de la bergerie urbaine. C'est aussi avec les compagnons bâtisseurs un projet qu'on a de financer la rénovation énergétique des finalement propriétaires pauvres qui vivent dans des logements indignes, qui sont très coûteux pour eux parce qu'ils doivent dépenser beaucoup d'énergie et très coûteux pour la planète parce que justement ils consomment toute cette énergie. Et donc retaper un logement indigne, pour nous c'est un job écolo-rentable parce qu'il va contribuer à consommer moins de ressources de la planète.
C'était Christophe Thomas, cofondateur de l'association La Ch'tite Maison Solidaire. Si vous souhaitez devenir bénévole, hôte ou encore adhérer au mode de vie en tiny house, rendez-vous sur leur site internet ch'titemaisonsolidaire.mistrikingly.com. Un reportage réalisé par Anaël Kaden pour RPL Radio.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.